Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur l'antenne de QG. Je suis ravie de retrouver mes camarades de quartier populaire pour une discussion importante ce soir. Bonsoir Didier et bonsoir Harold.
Bonsoir Aude, bonsoir à
Bonsoir
tous.
Aude, bonsoir Didier.
Salut.
Allez-vous, les garçons?
Comment vas-tu? Harold.
Grand
Ah,
silence.
je pensais à ça fait presque un an hein, quand même, quartier populaire.
Ouais.
Donc on tient la route, hein, on tient la route, ça c'est quand même très bien. On ne s'attendait pas quand même à une telle effervescence d'actualité politique au départ. On le supputait un peu quand même. Mais pas autant. Et là, on est vraiment nourri hein, en rebondissements divers et variés. Je pense que ça va ne faire que s'amplifier. Je rappelle aussi que le principe de l'émission, vous le savez, c'est de poser des questions. On va essayer d'être actif sur les interactions ce soir hein, pour répondre au maximum de questions sur ce sujet, évidemment, qui paraît un peu restreint dans sa formulation, mais qu'on va pouvoir élargir.
Alors, l'événement politique de la semaine nous a inspiré déjà pas mal de conversations. Je sais donc que vous avez beaucoup de choses à dire ce soir. Petit rappel des faits tout de même, bien sûr, hein, pour ceux qui auraient passé 48 heures, je ne dirais même pas à l'étranger, parce qu'on en a parlé en réalité sur tous les écrans à l'étranger, hein, des États-Unis jusqu'à Moscou, en passant par la Turquie. Voilà, Marine Le Pen a été condamnée à 4 ans de prison, dont deux fermes, et deux sous le régime du bracelet électronique. Elle a surtout été condamnée à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, une expression, je pense, que beaucoup de Français ont découvert, à cette occasion. Exécution provisoire, c'est-à-dire immédiate en réalité, hein, compromettant évidemment sa candidature à la présidentielle 2027. D'autres élus et d'autres responsables du Rassemblement national ont également été lourdement condamnés. Louis Alliot, Bruno Gollnisch, Julien Odoul, Valéran de Saint-Just, Nicolas Bay, que du beau monde dans cette même affaire dite des assistants parlementaires européens. Évidemment, le Rassemblement national et ses soutiens hurlent au coup d'État judiciaire, les médias de droite et d'extrême droite, et ils sont de plus en plus nombreux dans le pays, évoquent un gouvernement des juges ou une manipulation de l'Élysée, tandis qu'à gauche, sans surprise, on se réjouit de voir la tête de la chef du Rassemblement national rouler pour corruption. Alors bien sûr, on est là ce soir pour analyser la portée et le sens de cette décision judiciaire, s'agissant tout de même de la favorite à l'élection présidentielle 2027, soutenue à l'été 2024, je le rappelle, par plus de 10 millions de Français, notamment de Français issus des classes populaires, un score historique pour le Rassemblement national qui en fait, que cela nous plaise ou non, le premier parti d'opposition en France. Je signale tout de même que Marine Le Pen a d'ores et déjà obtenu un appel à l'été 2026, ce qui montre d'ailleurs, ce qui prouve que l'affaire est extrêmement sensible politiquement et qu'elle est suivie en haut lieu, et ce qui laisse planer bien sûr une grande inconnue sur la prochaine présidentielle française. Alors, peut-on combattre l'extrême droite sur le terrain judiciaire et pas seulement politique? N'y a-t-il pas là une illusion dangereuse qui renforce le Rassemblement national à long terme et même à court terme dans sa posture anti-système? Je vous invite à la suite d'Harold ce soir à poser toutes vos questions dans le chat. Bien sûr, c'est le principe de l'émission. Nos community managers, Maxime et Antoine, que je salue au passage, nous les remonterons aussitôt. Donc, n'hésitez pas. C'est le principe de quartier populaire. Je lance néanmoins la première question à mes camarades. Les motivations de cette décision judiciaire peuvent-elles être seulement judiciaires? Quel est votre ressenti à ce sujet? Est-ce qu'il faut nécessairement y voir une arrière-pensée politique, voire une décision politique au plus haut niveau?
Alors déjà, ce qu'on peut dire, c'est est-ce que les faits sont caractérisés?
Oui, les faits sont caractérisés. Effectivement, il y a une très longue enquête qui a visé beaucoup de gens du Rassemblement national. Et effectivement, on peut appeler ça népotisme, on peut appeler ça détournement de fonds, c'est la qualification qui a été reprise, gardée, actionnée. En réalité, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Premièrement, parce qu'il est très difficile, quand on est au Parlement européen, de savoir, il y a deux types, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, d'assistants parlementaires, mais il y a, globalement, c'est très difficile de voir qui fait quoi. Et si on utilise les gens du Parlement européen uniquement dans le cadre des affaires européennes ou si on l'utilise pour faire de la politique intérieure. Ben la réponse, elle est un peu dans la question. On utilise les assistants parlementaires, un métier que j'ai fait pendant, je sais plus, 5 ans. Tu fais un peu tout, hein, parce qu'un député pose des questions, fait un peu le kéké dans les médias, c'est quand même l'assistant parlementaire qui dépose les propositions de loi, qui répond au courrier, qui fait tout le travail législatif, tout le travail un peu compliqué, quoi, un peu de intellectuel, on va dire. Donc il est tout flamme, il est dans la permanence, etc. Bon, ça, c'est le premier point. Le deuxième, est-ce que c'est inédit et particulier, simplement, est-ce que ça se passe uniquement au sein du Rassemblement national? La réponse, c'est non. Ça s'est passé, on l'a vu, chez François Bayrou au MoDem. Il a été relaxé, le parquet a fait appel. Donc cette affaire est toujours pendante. Ça n'a pas empêché d'être Premier ministre. Et j'ai comme dans l'idée qu'il y a moins d'urgence pour l'appel de M. Bayrou, qui, bizarrement, a aussi perdu la mémoire concernant Betarame. Il n'a rien vu, rien lu, rien entendu. C'est assez prodigieux. Est-ce que d'autres partis font la même chose? Oui. Les Républicains font exactement la même chose. LFI a fait exactement la même chose. Il est d'ailleurs, j'en avais parlé dans une précédente émission, mais là ça ressort. Le Figaro, évidemment, s'est fait un peu les gorges chaudes de ressortir ça. Le gendarme antifraude européen a dans le collimateur Jean-Luc Mélenchon et la France insoumise pour un certain nombre de faits, justement, qui rappellent ceux commis par le Rassemblement national. À ce moment-là, il faut préciser que, parce que j'ai expliqué ça un petit peu sur les réseaux, dans des émissions, les gens m'ont dit, oui, mais les sommes sont bien moins importantes. En droit pénal, on n'est pas en droit commercial, on n'est pas en droit civil, que les sommes soient plus importantes ou moins importantes, ça n'a aucune espèce d'effet possible. C'est-à-dire que la commission des faits, c'est la commission des faits. Et ce n'est pas parce qu'on a vendu de la drogue, ce n'est pas si on la prend et qu'on la remet dans le placard, que le fait n'a pas été commis, l'infraction, le délit, ou voire le crime n'ont pas été commis. Donc ça, il faut bien avoir ça.
Je le signale à ceux qui nous écoutent, Didier, le tribunal retient un préjudice de 4,4 millions d'euros pour
Voilà.
l'Assemblée nationale.
Alors, ça, déjà, on commence à être dans le fallacieux. Parce que comment on calcule ça? Deuxièmement, moi j'ai bien lu les attendus du jugement, le fait d'arguer de l'exécution provisoire pour un risque de trouble à l'ordre public, c'est déjà un peu scabreux. Et enfin, où là, moi je trouve que c'est dangereux pour répondre aussi et boucler sur ta question, est-ce qu'on peut combattre comme ça le Rassemblement national? C'est quand même très risqué dans la mesure où, dans les attendus, il est dit aussi que ce parti n'est pas tout à fait dans la doxa et a combattu l'Union européenne, le fait européen, la Commission européenne. Et donc, ça ouvre un précédent, ça ferait d'une certaine manière une jurisprudence pour simplement, on sanctionne non pas un parti uniquement pour les faits commis, c'est-à-dire les infractions à la loi, mais parce que, d'un point de vue politique, pour le coup, il ne penserait pas tout à fait dans les clous et d'une façon tout à fait correcte. Donc on
Pardon.
ouvre là des champs infinis politiques qui feraient que d'une certaine manière, si hors du bloc central, hors de l'extrême-centre, point de salut. Moi, c'est ça que je trouve dangereux. Et enfin, et après je me tais, ce qui me semble dangereux aussi, c'est effectivement le fait que le Rassemblement national qui s'était dédiabolisé, qui apparaissait comme un recours, hein, le dernier recours, on n'a pas essayé le Rassemblement national, se voit opposer juste au moment où elle est à 37%, Marine Le Pen dans beaucoup de sondages, un couperet judiciaire, ce qui risque de renforcer dans l'opinion française le fait que c'est une justice politique. Donc oui, la justice doit passer, mais alors elle doit passer pour tout le monde, et de la même façon, avec la même sévérité et la même célérité. C'est ça que je dis.
Alors, Harold, ce qu'on dit, hein, notamment du côté de la gauche, c'est que Marine Le Pen a longtemps joué la montre, hein, dans ce dossier des assistants du Rassemblement national en refusant de répondre aux questions du juge, en multipliant les recours depuis des années et des années que dure cette affaire et en espérant qu'elle arriverait comme ça à enjamber la date de la présidentielle. Quel est ton regard sur cette affaire et est-ce que c'est vrai que tout le monde le fait?
Bon, d'abord, il y a plusieurs niveaux. D'abord, le premier niveau, c'est l'enthousiasme. Moi, j'ai du mal, de toute façon, à m'enthousiasmer lorsque, après 7 ans de Macron, en sachant tout ce qu'on sait sur le niveau de corruption, sur les trafics qu'il y a eu depuis des années, j'ai du mal à m'enthousiasmer. Voilà, je suis désolé, mais c'est difficile. Que Marine Le Pen soit sanctionnée, les faits sont avérés, ils sont lourds, ils sont graves. Bon, ils sont établis. Elle a joué la montre. Je pense qu'elle a joué la montre d'ailleurs avec une sorte de position un peu bourgeoise en disant je suis au-dessus de la mêlée, j'en ai rien à faire. De toute façon, ça se fait. Et c'est vrai que les Français en général, et je ne parle pas du Rassemblement national, en ont aussi marre en fait de cette impunité des politiques. Parce que la question qui se pose, c'est on fait appel, on fait des pratiques de dilatoires, etc. On repousse, on repousse, on repousse, et à la fin, ben, on s'en fout. Finalement, on n'en a rien à faire. Et donc, de toute façon, ce qu'on vote, parce que Marine Le Pen a quand même voté avec son groupe justement cette procédure d'illégibilité exécutoire, donc elle l'a voté, ce qu'on vote ne s'applique pas finalement à nous. Donc c'est quand même un double discours du côté du Rassemblement national, avec on flatte un petit peu, avec un aspect un peu, on dira populiste, j'aime pas trop ce terme, mais en tout cas un peu démagogique, en se disant de toute façon, ça ne s'appliquera pas à nous. Donc ça, c'est quand même très pénible. Et de voir qu'il y a sanctions, il y a sanctions lourdes, on ne peut pas être, voilà, on ne peut pas s'opposer à ça. Maintenant, il ne faut pas être naïf non plus. Voilà, il ne faut pas être naïf non plus. Moi, il y a beaucoup de choses qui me gênent. Didier en a repéré certaines. D'abord, c'est la lecture de ce qui a motivé le juge. Je rappelle que le juge n'était pas obligé, hein, par la loi de donner cette...
Ça, Harold, ouais, c'est le plus important, je pense, à rappeler ce soir à ceux qui nous écoutent.
Voilà, il faut que ce soit clair.
Il s'agit, je cite les propos, hein, de constitutionnalistes qui se sont exprimés dans la presse depuis quelques jours. C'est dérogatoire au droit. Le
Voilà.
tribunal a choisi cette inéligibilité. Il a dû la motiver lourdement, hein, dans un texte extrêmement long.
Extrêmement long, on va reprendre un petit peu les éléments du texte.
Ça n'était pas automatique. Ça n'était
Voilà.
pas automatique.
Oui,
Parce que ça
parce
a
qu'il y a
été
une
mis en avant. Ça a été
confusion,
bien
parce que les
avant.
gens parlent de la loi Sapin 2. Il y a une véritable confusion. Avec la loi Sapin, c'est automatique pour un certain type de commission des faits. Mais là, ça n'est
Voilà.
pas du tout automatique, c'est dérogatoire.
Donc, il
Ça,
faut
c'est applicable.
motiver, voilà. Donc, il faut motiver la décision. Et c'est là où, en effet, si une fois qu'on a dit qu'il y a eu ce délit, ce détournement, il faut maintenant regarder les choses dans le détail et avoir une analyse politique. On ne peut pas être naïf. Il faut arrêter, enfin, on l'a déjà dit sur QG des dizaines de fois, la petite morale superficielle où on est dans l'enthousiasme, hein, pourquoi pas sortir le prosecco, hein, comme on a vu récemment avec la mort du père. Alors là, on ressort une deuxième bouteille. C'est vrai que moi, je ne pense pas dans ce cadre-là. Je lis ce qui est écrit et je m'interroge.
C'est un peu
J'ai
ce
trois.
qu'on a le sentiment d'avoir vécu, ouais, depuis 48 heures, c'est vrai.
Voilà, j'ai trois interrogations. La première interrogation, c'est sur la motivation. L'atteinte aux intérêts de l'UE revêt une gravité particulière dans la mesure où elle est portée non sans un certain cynisme, hein, donc une certaine stratégie cynique et avec détermination par un parti qui s'oppose aux institutions européennes. Ça, moi, je m'arrête là-dessus, ça me gêne en fait. Qu'on motive une décision qui, dans le droit va léser les Français, parce que les Français sont lésés de la possibilité de mettre, d'avoir Marine Le Pen, on peut en penser ce qu'on veut, mais dans l'élection présidentielle, concourir à l'élection présidentielle 2027. Il y a un préjudice pour l'électeur, ce qui en droit vaut, hein, et qu'on motive ça par en fait une intention, le cynisme par exemple, je ne sais pas trop ce que ça vaut du point de vue du droit, le cynisme, c'est bizarre, et surtout la critique des institutions européennes. Ça, c'est quand même curieux. Et en plus de ça, c'est complètement décalé, parce que je rappelle quand même que ça fait des années que le Rassemblement national ne critique pas les institutions européennes. Hein, on est plus distant.
Absolument. En plus, c'est complètement à côté de la plaque
Est
politique.
complètement à côté de la plaque. Donc ça, c'est le premier problème. C'est une décision qui doit être motivée très fortement. Et je trouve que là, bon, c'est pas terrible. Ensuite, il y a l'idée, deuxième point, de trouble à l'ordre public. Alors là, moi aussi, c'est pareil, ça me gêne en fait, le trouble à l'ordre public démocratique. On l'a lu des dizaines de fois depuis des années. On a interdit des manifestations, d'ailleurs, des manifestations hein, pour défendre ce qui se passait, l'horreur à Gaza en particulier. On a eu ça, on a eu, attention, le trouble à l'ordre public. On a eu ça dans les luttes sociales. Bon, cette prophylaxie sécuritaire, moi, elle me gêne. Elle me gêne. Alors on va en discuter. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais moi je trouve que ça va pas. Ça va pas parce qu'on met de la prophylaxie sécuritaire, on met des étés en amont pour empêcher quelque chose. Moi je suis pas sûr qu'il n'y ait pas plus trouble à l'ordre public démocratique en empêchant en fait, enfin en faisant prenant cette décision motivée comme ça qu'en ne la prenant pas. Ça c'est la deuxième chose.
Alors,
Et
effectivement.
la troisième chose, je vais terminer avec ça juste, je fais un petit lien avec l'élection européenne. Ce qu'a dit quand même le syndicat de la magistrature le 11 juin 2024, syndicat de la magistrature qui a fait un communiqué, et ça c'est public, en disant se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Quand vous... Le problème, il est là, c'est que à force en fait de diaboliser l'extrême droite, à force en fait d'en faire l'ennemi public numéro un, on crée une atmosphère générale qui fait que, évidemment, on a le problème. J'ai l'impression qu'on entretient le problème pour cacher toute autre chose. Il ne faut pas être naïf là-dessus. C'est un problème, certes, juridique. Il y a délit, donc il y a sanction, bien sûr, mais on est en plein dans un moment politique. Tous ceux qui font de la morale, qui ouvrent du prosecco et qui se tapent les fesses par terre en se disant l'état de droit a gagné, l'état de droit, on y reviendra, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. Attention. L'état de droit, attention, la France a toujours été un état de droit, y compris sous Pétain. Donc l'état de droit, attention, attention, moi je préfère la démocratie, c'est une chose, mais que tous ceux qui nous font cette morale rabaissent un petit peu et réfléchissent politiquement. On est là pour réfléchir politiquement aussi.
Alors, Harold, oui, pour compléter ce que tu dis, effectivement, la présidente du tribunal a évoqué l'existence d'un trouble majeur possible à l'ordre public que constituerait la candidature à la présidentielle ou l'élection d'une personne condamnée à une peine d'inéligibilité sans exécution provisoire, sachant que notre Premier ministre actuel est exactement sous le coup de la même menace. Non, mais c'est se moquer du monde. Par
Il faut
ailleurs,
que la règle soit la même pour tout le monde.
il y a, me semble-t-il, une forme même de retournement assez pervers de la vérité, parce que je pose la question à Didier, et là, ça nous ramène directement du droit à la politique. Est-ce qu'un trouble à l'ordre public majeur, ce ne serait pas plutôt de laisser en effet une candidate favorite à la présidentielle 2027, deux fois finaliste à des présidentielles, en incapacité de se présenter et ces millions d'électeurs, voilà, sans recours?
Évidemment, le risque, c'est plus qu'un risque. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont été interrogées, que ce soit à Hénin-Beaumont dans le fief de Marine Le Pen ou un peu partout en France, c'est la première chose qu'ils ont dite. On me dit, évidemment, on nous prive de notre candidat, il fallait bien nous trouver quelque chose, et ils nous ont trouvé ça. Je dois dire qu'en plus, ce qui ne va pas, c'est qu'il y a eu un précédent avec François Fillon. Et que le PNF, Parquet National Financier, a été créé par François Hollande comme une justice politique. En fait, hein, on se débarrasse des gens qu'on ne veut pas. Et je rappelle que par ce coup d'État, ce coup de force judiciaire et juridique, on a eu 8 ans de Macron et on aura sans aucun doute 10 ans de Macron. Donc, il y a plusieurs instruments. Il y a un instrument judiciaire avec des parquets qui sont instrumentalisés à des fins politiques. Il y a un instrument encore plus froid. Quand je dis judiciaire, c'est les parquets, mais aussi les magistrats du siège. On parlait du syndicat de la magistrature. Moi, je suis extrêmement choqué que les policiers et les magistrats puissent être syndiqués. Alors, ça ne me dérange pas qu'ils soient syndiqués pour l'avancement des carrières, pour des histoires corporatistes, etc. Ça me dérange que, en tant qu'acteurs de la société, les uns et les autres soumis à une totale impartialité puissent donner leur avis quand on voit que les syndicats policiers ont auditionné les candidats à la présidentielle et que les syndicats de la magistrature font que de la politique, on est dans autre chose. Donc il y a ce premier pan. Il y a un deuxième pan, qui est un peu la deuxième pince de l'étau, qui est en réalité le DSA, Digital Service Act, qui est froid, implacable, c'est-à-dire on va alléguer qu'il y a eu des manipulations sur TikTok ou sur un autre réseau social, comme en Roumanie avec Georgescu, on va dire, bah, on n'a pas besoin de le démontrer, on va dire c'est comme ça, et on va empêcher les gens, avec l'accord, l'appui de la justice, de se présenter. Tout ça nous amène à quoi? À Marine Tondelier, par exemple, ou Faure, Olivier Faure, qui se gargarise et qui se félicite, qui dit oh, c'est bien fait, regardez. Mais il devrait faire attention, il y en a un qui ne s'y est pas trompé, c'est Jean-Luc Mélenchon. Parce que lui, il sait qu'il est dans le collimateur. Il sait qu'il, probablement, il y a de grands risques qu'il soit le prochain sur la liste. Donc, on doit toujours être dans le combat politique. C'est ça la question. Et si, moi, je ne suis pas pour que le combat judiciaire vienne comme ça s'en mêler. Si on va un peu plus loin, par rapport à ce que disait Harold, qui faisait des partitions et des degrés, des niveaux, il y a quand même, oui, factuellement, le Rassemblement national qui ne défend plus la sortie de l'Union européenne. Ça, c'est quand même une espèce de comble. Mais au-delà de ça, il faut quand même voir, et c'est pour ça que moi je suis pour la gratuité des missions politiques, qui est quelques défraiements, etc., mais c'est tout, parce qu'on crée un système qui coûte très cher, très cher, hein, quand on voit qu'à la Commission, ben, Madame von der Leyen se paye 35 000 euros. Il y a eu 7 augmentations en 2 ans. Un député européen, c'est 15 000 euros. Pourquoi? Pour rien.
Trop
C'est
de
ça le
fric, trop de
drame.
fric, trop de fric. Voilà.
Voilà. Quand tu as Valérie Ayer, qui est toute la journée, bon, qui a un QI entre 60 et 65, qui toute la journée est dans tous les médias, du lundi matin au dimanche soir, que le Parlement européen, même si on est. Il y a des génies qui sont élus au Parlement européen. Le Parlement européen ne sert à rien. C'est pas, il y a le Conseil européen, on voit bien le rôle. Il y a surtout la Commission européenne. On comprend bien que c'est là qu'est le vrai siège du pouvoir. Et d'ailleurs, Ursula von der Leyen est la vraie patronne de l'Europe et elle se comporte comme telle. Le Parlement européen, ça ne sert à rien. Et donc, on est dans un système où on va condamner en France des gens qui se font élire au Parlement européen pour soi-disant taper sur l'Europe. Quand on leur dit, comme ils ne veulent plus sortir de l'Europe parce que ça fait pas bien quand on est candidat à la présidentielle et qu'on se diabolise, ils disent qu'ils vont la réformer de l'intérieur. Et on les fait tomber au motif même qu'on pourrait créer un ordre, un désordre public et un précédent parce que ces gens-là seraient contre l'Union européenne. On est dans la folie furieuse, dans le grand n'importe quoi, et on est dans le déni démocratique. Pour finir, j'avais dit il y a 2 ou 3 ans qu'un jour, il supprimerait les élections. Et c'est bon, on est dans ce mouvement-là. C'est-à-dire, la démocratie française est une cooptation, comme je dis souvent, ratifiée par un vote dont le résultat importe peu. Une
Alors,
cooptation.
on va venir à toutes les conséquences politiques lourdes de tout ça à l'échelle européenne. Et tu as totalement raison de rappeler que tout ça s'inscrit dans une dynamique française
À commencer par ce qui s'est passé l'été dernier, hein, en juillet 2024, c'est-à-dire le résultat des élections législatives bafouées, rien de moins dans un pays comme la France, puisque le résultat des urnes n'a eu aucune conséquence sur le Premier ministre nommé, comme on le sait. Mais on va prendre tout d'abord quelques questions du chat particulièrement intéressantes. Vous êtes, il y a beaucoup de choses tout à fait intéressantes ce soir. Tout d'abord, je vous pose la question, que pensent les électeurs du Rassemblement, on va en prendre trois. Que pensent les électeurs du Rassemblement national de la condamnation de Marine Le Pen d'après vous? Est-ce qu'ils ne sont pas tout de même déçus que Marine Le Pen ne respecte pas la loi, ne respecte pas une certaine idée de l'intégrité? Première question. Deuxième question qui concerne toujours l'intégrité des élus, qui est quand même un sujet qui concerne aussi les Français. Est-ce que rendre inéligibles les candidats qui violent la loi ne les incite pas malgré tout à ne plus la violer, ne contribue pas à diminuer la corruption? Et une troisième question, je ne sais pas quelles sont celles qui vous inspireront le plus, une question plus politique. Si Marine Le Pen est censurée, en tout cas si elle est éliminée, je pense qu'on peut le traduire comme ça. Est-ce que vous pensez que cela avantage en effet le Rassemblement national, comme je le disais, comme je le supposais en introduction, en le renforçant dans son rôle anti-système, ou au contraire, est-ce que le Rassemblement national pourrait se reporter sur Bardella, ma foi, de façon pas désavantageuse finalement, et gagner la présidentielle?
Alors, bon, je peux répondre déjà sur la première question. Non, les électeurs du Rassemblement national n'estiment pas que Marine Le Pen a fauté et qu'elle doit démissionner, que c'est scandaleux. Ils estiment que Marine Le Pen est victime d'un complot des juges rouges, des juges communistes, parce qu'il y a une confusion qui n'est même pas entretenue. Je crois qu'ils le pensent sincèrement. Ils pensent que, c'est un peu le Figaro aujourd'hui d'ailleurs, hein. C'est la gauche. Ils disent c'est la gauche, c'est les juges rouges, c'est pas du tout la gauche. Quand on dit les juges sont trop laxistes, etc., mais les juges, ils sont réactionnaires, les juges aujourd'hui. Enfin, on a reçu Albert Lévy, les juges, ils sont pas du tout permissifs, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Les juges, ils sont toujours pour l'ordre établi. Et il suffit de tourner le bouton d'un média pour voir à quel point on est dans un monde, une société anxiogène. OQTF, arabes, musulmans, insécurité, coupe-gorge, toute la journée, on vit dans cette hystérisation permanente. Grand remplacement, remplacisme global, ça devient le lot commun. Premièrement. Deuxièmement, s'il y a un transfert, j'allais dire, de technologie sur Bardella, ils savent, ils préféraient que ce soit Marine Le Pen, parce qu'il y a quand même le mythe du chef, et puis elle a souffert sur la croix. Pour la rédemption, etc. Bon, s'il faut.
Et puis tu le sais, toi aussi, Didier, hein, pour t'être déplacé sur le terrain de nombreuses fois, il y a un lien affectif avec Marine Le Pen. On a un reporter, hein, un photoreporter comme Vincent Jarousseau, qui a écrit beaucoup de livres sur les électeurs du Front National et du Rassemblement National, comme L'Illusion nationale aux arènes, que je recommande absolument à tout le monde pour comprendre de l'intérieur qui sont ces électeurs, et qui insiste beaucoup, hein, sur ce lien affectif.
Non, mais
La
Marine Le
figure
Pen, elle a réussi
de
ça. Marine Le Pen, c'est la maman aujourd'hui. Et comme pouvait l'être Jean-Marie Le Pen, qui était le patriarche, avec tous ses excès, alors ça emmerdait un peu les gens, et notamment, et c'est là où ça devient compliqué, pour les gens qui ne sont pas extrémistes et qui ne veulent pas voter Rassemblement national, et on est piégé d'une certaine manière. C'est-à-dire que, pour rebondir sur ce que disait en préambule, Harold, 7 ans de Macron, on ne peut pas se réjouir parce que Macron, c'est la bourgeoisie, c'est des gens sans âme, c'est des bateaux sans quilles, ce sont des petits cons, quoi. Si je le dis comme ça, je force un peu le trait, mais c'est ce qu'on ressent tous. Et du côté du Rassemblement national, il y a aussi des gens qui nous ressemblent, c'est-à-dire des ouvriers, des petits commerçants, des artisans qui en ont marre, qui veulent s'en sortir. Donc finalement, le Rassemblement national a capté ce vote ouvrier, ce vote prolétaire, ce vote des travailleurs pauvres, des gens déclassés, qui se sentent déclassés ou qui le sont réellement, de cette France périphérique. Et c'est toute notre difficulté. Comment lutter contre la Macronie, le bloc central et cette espèce d'extrême centrisme, d'extrême centre qui nous fait tant de mal, qui fait tant de mal au pays et à l'Union européenne, sans pour autant servir le discours souvent démagogique d'un Rassemblement national qui va se lever dans les discours ouvriers. Donc voilà, aujourd'hui Marine Le Pen a réussi ça, c'est-à-dire qu'elle incarne un peu la maman, on l'a vu avec ses chats, elle est humaine, et honnêtement, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'elle est pire que son père, ça serait quand même, elle est moins pire que son père. Alors maintenant, je me tais, le problème que va rencontrer le Rassemblement national à partir de dimanche, c'est déjà le cas, mais avec leur manif, c'est comment, alors qu'ils se sont dédiabolisés pendant toutes ces années, sans effet, puisque le système, finalement, les balaie de la même manière, comment vont-ils retrouver les accents du complot des juges, de on nous en veut, etc., alors qu'ils sont finalement eux-mêmes lovés dans le système? C'est une dichotomie, une contradiction qu'il va
Alors,
falloir résoudre pour eux.
tout à fait. Je vais laisser Harold continuer à répondre aux questions du chat hein, que j'ai soulevées. Mais puisque tu parles, Didier, voilà, de cette idée de complot des juges, de juges communistes, de juges rouges, etc., je pense qu'il est important de dire à ceux qui nous écoutent que la juge en question, hein, celle qui a donné ce délibéré, n'a pas du tout ce profil, pour le coup. Hein. Je ne veux pas faire du délit. De patronyme après le délit au faciès, mais elle s'appelle Bénédicte de Pertuis. Alors, je sais qu'il y a des marxistes à particules, on en connaît d'ailleurs, toi et moi, Didier. Bref, mais bon, c'est une ancienne experte comptable qui a 38 ans, s'est reconvertie dans la magistrature, qui a plutôt un profil conservateur, qui est un petit peu. Fascinée par les figures de juges incorruptibles à la manière d'Eva Joly ou de Renaud van Ruymbeck. Donc on est loin, loin d'un juge politisé, ce qui bien sûr n'exclut absolument pas des influences et une politisation à l'extrême centre ou autre. Enfin, tout est ouvert, bien sûr, les juges sont aussi. Des êtres humains et on sait surtout que les juges subissent d'énormes pressions. C'est peut-être un point sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, mais l'indépendance de la justice est tout de même un mythe dans ce pays et plus les affaires sont sensibles et graves, plus il est. Cette petite parenthèse refermée sur Bénédicte de Pertuis, je laisse Harold répondre aux autres questions.
Pour répondre à ça, déjà, Ferrand au Conseil constitutionnel, hein, à partir de là, le magouilleur des mutuelles de Bretagne, bon, c'est difficile, quoi. C'est difficile de nous vendre en fait l'état de droit aujourd'hui, en 2025, après tout ce qu'on a vu. Voilà, moi je ne l'avale pas. Il y en a qui l'avalent, mais moi je ne l'avale pas. Sur le fait de violer, enfin, de violer la loi, enfin, voilà, de faire des actions répréhensibles, des délits et d'être puni. Moi, je suis pour la punition, hein, attention, hein, je suis pour la punition. Que le RN, une entreprise familiale qui, pour moi, est une imposture sociale, hein, et ça, je l'ai déjà dit à de multiples reprises, qui a capté, en fait, la colère, qui a capté le déclassement, qui a capté la misère sociale et la misère des travailleurs en particulier, dans une entreprise familiale très lucrative, avec une espèce de prétention et de morgue, en fait. Parce que je pense que sa défense, d'ailleurs, qui était une non-défense, on le voit avec son avocat, là, qui est passé sur quelques plateaux, en disant: c'est un dissensus administratif, quoi. Voilà. Bon, on a détourné en fait des millions d'euros, mais en fait, c'est un dissensus. Bon, elle se fout complètement du monde, mais elle se fout aussi en faisant ça des contribuables, quand même, des gens qui payent, et c'est nous, hein, voilà, ce sont les travailleurs en fait. Donc, ça révèle quand même, moi je trouve, de ce point de vue, c'est très positif, une sorte d'imposture RN qu'il faut quand même nommer. Donc, ça, peut-être, oui, en
Est-ce que tu
effet,
crois,
effectivement.
Harold, est-ce que tu crois que ces électeurs perçoivent ça comme ça?
Je pense que ces électeurs sont, c'est très compliqué. En fait, il y a un
Non,
électorat
pas.
bourgeois, il y a un électorat bourgeois légitimiste, on va dire, qui pourrait très bien se tourner vers une droite, entre guillemets, une droite dure. ça pourrait être du Retailleau, ça pourrait être à peu près ça, qui pourrait se déplacer, en fait, je pense que ça, c'est possible. Et il y a évidemment un électorat anti-système qui va se renforcer, un peu dans la version Trump, c'est-à-dire qui va dire, ben voilà, en fait, c'est le droit qui nous prive, en fait, encore une fois, de notre voix. C'est toujours les petits qui se font écraser. C'est ça, en fait, la lecture. Colère, colère, il ne s'est pas présenté aux auditions. Colère, il part à la société générale. Mais c'est incroyable. Il laisse le pays avec une dette, mais stratosphérique, en fait. Et ils ne doivent de compte à personne. Et pour l'électeur Rassemblement National, on lui prive, on lui retire, en fait, par décision de droit, on lui retire le seul moyen, en fait, une voie, en tout cas, d'accès à sa protestation. Les gens de gauche qui ne comprennent pas ça, mais ils sont, en fait, ils sont du côté des bourgeois. Excusez-moi, mais en fait, c'est que c'est ça, quoi. Voilà, c'est un peu, bon, on va pas faire des raccourcis trop rapides, mais il y a quand même ça.
On leur retire même d'une certaine façon avec ce bulletin de vote le dernier recours,
Voilà.
puisque on sait que dans la rue, la répression policière des Gilets jaunes a été terrible
Oui.
et qu'il y a plus d'autres et que bon, il n'y a plus de syndicats puissants, en tout cas.
Non, mais là, tu vois, il faut dire
Alors,
quelque
attends,
chose.
je vais juste terminer juste ce
Je
point
t'en
sur les
prie.
deux questions. Hein. Est-ce que juste ce point? Donc, ça, c'est la première question. Et la dernière question du chat, c'était la question plus politique. Est-ce
C'est ça.
que, voilà, est-ce que le RN va bénéficier? Ça n'engage que moi. Je trouve que Bardella est nullissime. Si ce parti avait vraiment l'objectif de conquérir le pouvoir, réellement, sérieusement, si M. Tanguy avait vraiment cet objectif-là, il n'aurait pas choisi Bardella. Il est vraiment, c'est nul. Voilà, c'est nul, nul et nul. C'est quelqu'un qui n'est pas formé, qui n'a pas de fond. Alors, ils ont joué l'image, mais le problème, c'est que dans un débat présidentiel, mais ça explosera, en fait. Ça peut pas tenir, Bardella. Ça peut pas marcher. Et
Après, Harold, on peut
ça,
t'objecter.
c'est mon avis. Peut-être que j'ai tort, hein.
On peut te dire, comme Oscar Wilde, que pour être populaire, il faut être médiocre. Et que d'une certaine façon, Bardella correspond à une certaine médiocrité d'époque, tout comme Macron d'ailleurs. C'est un petit peu un costume vide, voilà, une belle allure et pas grand-chose dedans.
Ouais, mais le problème, c'est qu'au second tour de l'élection présidentielle, il faut passer la barre des 50%. C'est colossal, en fait. C'est colossal et je ne pense pas que le profit de Bardet. Bon, on ne va pas disserter là-dessus, mais en tout cas, peut-être qu'il n'était pas prêt. Je pense peut-être que Le Pen aussi ne croyait pas qu'elle serait dans cette situation-là. Peut-être qu'ils ont joué, ils se sont dit, et ils ne vont pas oser. Ils ne vont pas le faire. Voilà. Là aussi, à titre d'analyse personnelle, je ne crois pas vraiment fondamentalement que le RN veuille le pouvoir. Je pense que cette petite entreprise familiale, au fond, ça leur va très bien. Ils sont montés progressivement.
Est-ce qu'on n'a pas changé d'époque quand même à cet égard par rapport à Le Pen père? Est-ce qu'on n'est pas... C'est ce que disait Philippe Muret, effectivement, sur Le Pen père, qui jouissait de la position du diable de la République et qui ne voulait pas le pouvoir. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui avec cette nouvelle génération RN? J'en suis moins sûre.
Ben, j'ai quand même des doutes. Quand je vois le passage entre l'élection, enfin les deux tours de l'élection législative, Bardella s'est complètement liquéfié quand même, hein. Il n'y avait personne, hein. Il a repris tous les thèmes, d'ailleurs, mainstream, généraux, enfin, sur la guerre en Ukraine, sur enfin, les retraites. Il s'est complètement liquéfié. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vois pas très bien où est l'ossature. Si vraiment il voulait prendre le pouvoir, il faudrait tenir une ossature
Non,
sérieuse.
mais ils ont fait, je
Comme sur
pense
les
qu'ils ont
retraites, ils en
fait.
sont où? Ils sont nulle part, en
Non,
fait,
mais
sur les
ils ont fait
retraites
à
avec la vie
Paris, le
sociale, c'est
RN.
nul.
Ils ont fait un pari quand elle a pris le parti, Marine Le Pen, et son père n'était pas d'accord d'ailleurs. C'était le pari de la normalisation et de la dédiabolisation. Et donc, petit à petit, ils ont abandonné tous les pans jusqu'à ce qui faisait un peu leur particularité, c'est-à-dire la sortie de l'UE. Il y a encore un peu un discours sur l'immigration, mais clairement, il est plus prioritaire. Il est intériorisé dans l'électorat, mais c'est pas Marine Le Pen qui tous les jours va, alors quand elle peut en rajouter, quand il y a une OQTF, un meurtre, et que le type est sous OQTF, elle va pas ne pas le dire, évidemment.
Ouais, et ceci dit, Retailleau et Darmanin s'en chargent parfaitement sans elle. Hein.
Alors, c'est ce que
Ouais,
j'allais
tout à fait.
dire, c'est-à-dire que Retailleau et Darmanin, ils ont fait, comme ils sont déjà, c'est très. C'est exactement là où ça va se jouer. Comme ils sont déjà à l'intérieur du système, ils n'ont pas besoin de donner des gages au système, puisqu'ils sont le système. Et ils ont une politique dans le verbe, parce que dans l'action, ils font rien. Hein, Retailleau, c'est jamais vu un ministre aussi nul. Il s'est ridiculisé sur Sainte-Salle. L'autre, il a sifflé Macron à la fin de la récréation. Il dit, j'ai des bonnes nouvelles, il va peut-être sortir. Alors que 15 jours avant, il disait, retiens-moi, Germaine, retiens-moi. Si, non, 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 moi, je vais démissionner. Il n'a rien démissionné du tout. Hein. Il va lécher le petit gland du mocassin de M. Macron, comme il fait tous les matins, en disant qu'il est à la droite de la droite. C'est terrible, ces gens-là. Parce qu'en fait, il y a eu là aussi une espèce de transfert de comment on pourrait appeler ça, fascistoïde un peu, hein. Quand moi je parle d'hystérisation de la société, on vit plus dans un monde normal, on vit plus dans une société apaisée, tout est sujet, finalement, il faut toujours faire attention s'il n'y a pas un noir, un arabe qui va nous détrousser, nous violer, piquer notre bagnole. On est dans ce monde-là et tous les médias ont été achetés à cet effet-là, c'est aussi pour ça que j'y vais plus. Mais je voudrais revenir brièvement sur les juges. Il y a eu l'opération. Là aussi, avec la bouche, comme on dit à Toulon, très peu dans les faits, pas du tout d'ailleurs, de manipulite, les mains propres, comme en Italie, hein, c'est-à-dire les politiques, il a plus blanc que blanc, sous la pression populaire, oui, il y a beaucoup de corruption, donc on vote des lois qui sont toujours plus contraignantes, et notamment les exécutions provisoires, etc. On se souvient tous de Marine Le Pen clamant sur un plateau de télévision, à vie, les gens qui ont magouillé, etc. Inéligibilité à vie. Bon. Donc les juges, avec tous les défauts qu'ils ont, ils sont, et même s'ils sont instrumentalisés, et si même eux-mêmes font de la politique en rendant au nom du peuple français des décisions de justice, ils sont quand même contraints par un cadre parlementaire, par un cadre législatif. Et le législateur a voulu ça. Donc tout l'enjeu pour la magistrature, et c'est ce qu'a pu rappeler hier d'ailleurs la procureure de Paris, c'est de ne pas être suspecté, et c'est pour ça que l'appel intervient en 2026, de ne pas être suspecté de couper l'herbe sous le pied de Marine Le Pen. Et là, c'est l'arme à double tranchant. On imagine mal que ces mêmes juges, parce que ça va être les mêmes globalement, vont infirmer le jugement en appel, ils vont même, je pense, l'alourdir, ou à tout le moins le maintenir, et c'est le couperet. Ça veut dire que là, en appel, ils diront, bah, la justice est passée deux fois et vous êtes définitivement condamné. Alors bien sûr, il y a la cassation, bien sûr, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, enfin tout ça, c'est pour faire de la mousse. Mais on peut quand même, ça c'est
C'est
le vrai
aussi,
enjeu.
pardon Didier, juste petite parenthèse, que Marine Le Pen et le RN resteront comme ça, hein, sous la coupe de la justice, enfin, jusqu'à l'été 2026, avec toutes les conséquences politiques qu'on a vues que ça pouvait avoir, puisqu'ils n'ont pas censuré le gouvernement Bayrou pour cette raison, comme on le sait absolument tous.
C'est ça, non, mais de toute façon, on voit bien, et c'est là qu'on peut s'interroger sur la stratégie du Rassemblement national. Moi, je pense qu'ils veulent le pouvoir, Marine Le Pen, elle le veut, et cette nouvelle génération le veut. Mais il y a peut-être une espèce d'impeachment, j'allais dire presque psychanalytique. Il y a un rapport au père qui était particulier, hein, qui l'empêchait d'avancer. Elle s'est construite avec, mais aussi contre le père, je ne vais pas faire de la psychologie de comptoir, mais en l'espèce, c'est très important de comprendre cette psychologie-là. Alors, sa disparition, d'une certaine manière, pouvait l'aider à inaugurer une nouvelle séquence politique et personnelle, mais vient tomber cette histoire. Et puis, on peut s'interroger sur le fait, effectivement, là, je rejoins Harold, de choisir Bardella, qui est le vide absolu, c'est-à-dire. C'est un hyper-amnésique, il apprend tout par cœur, mais comme je dis, c'est quelqu'un qui n'a pas de quilles. Et on voit bien que dans les raisonnements politiques, il n'a pas la culture politique, il n'a pas la culture humaine parce qu'il est très jeune, il a quand même que 29 ans. Alors il laisse pousser sa petite barbe, son petit duvet. Oh, ça a l'air tout doux, c'est tout mignon, là. Hein. Bon, ça fait pas sérieux, quoi. Donc ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question et le risque, on parlait de médiocrité tout à l'heure, c'est d'avoir finalement Bardella Attal dans un deuxième tour après avoir eu. Après Macron, tout est possible. Quand tu vois une espèce de gazelle affolée dans le suraigu qui crie, c'est notre projet, etc. Tout est possible après ça. Quand tu as éborgné 30 personnes, quand tu as fait 3 300 milliards de dettes, que tu as ajouté, que le pays est pourri, complètement planté, que tu te fais photographier avec des biceps en mousse et que tu veux faire la guerre à la première puissance nucléaire de la planète, et en appelant ça ambiguïté stratégique, après derrière, c'est du divertissement. C'est rien d'avoir Attal et Bardella derrière. Donc, il y a aussi ça. On a inauguré une nouvelle ère politique qui est celle que Lipovetsky, dans les années 80, déjà appelait l'ère du vide. On est dans l'ère du vide. Harold a fait un magnifique texte sur Pasolini, sur l'importance de Pasolini dans le fait de penser la politique contemporaine. On est dans des moments pasoliniens, quoi.
À retrouver sur le site de QG le grand texte de Harold hein, sur les 50 ans de la mort de
De la
Pasolini.
mort de Pasolini. J'ajoute, si je peux juste ajouter un point.
Ouais, et on va prendre trois nouvelles
Ouais.
questions du chat.
Le problème, c'est que le vide politique, en fait, le vide absolu. Quand on voit Attal présenter son truc du 6 avril, là, c'est grotesque, en fait. On est vraiment dans du dada. Enfin, il faut vraiment inventer là une nouvelle littérature, parce que même ce que faisait Muret, même c'est dépassé. On est très, très
On
au-delà
est
de
très
ça.
loin. Ah
Ils ont
ouais.
exterminé la satire, ces gens-là. C'est vraiment ça. Donc c'est terrible. Enfin, pour la pensée critique, c'est presque sidérant, en fait. Enfin, soit on invente et on est à la hauteur de leur vacuité, soit on fait autre chose, qu'on va cultiver son jardin. Mais ce qui est intéressant, c'est que le vide de ces politiques a donné un ticket gagnant au RN chaque année. Ça tombait dans l'escarcelle. Ça tombait, en fait, puisque eux, ils n'ont pas été aux responsabilités. Donc, en fait, c'était le ticket gagnant. C'est l'Euro Dreams. Hein, c'est exactement ça, le RN. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait. C'est l'Euro Dreams. Et le problème, c'est quand on gagne l'Euro Dreams, pourquoi on irait bosser? Pourquoi le RN ferait un programme sérieux? Pourquoi il défendrait, il aurait une pensée politique structurée? La mère Le Pen, elle encaisse, en fait. C'est finalement un peu quand même la grande maquerelle du détournement économique, enfin, financier. Elle ramasse, elle a tous ses petits
D'ailleurs,
députés.
on
Et
ne sait même,
pourquoi?
on sait même
Pourquoi
plus
elle
quelle
se
est la
fatiguerait,
campagne.
en fait? Pourquoi? Pourquoi? Et là, c'est le stop.
Ouais. Alors, on va prendre trois questions du chat qui sont un petit peu dans le siège de toute façon de cette discussion. Première question, pensez-vous que les macronistes se réjouissent de la censure de Marine Le Pen, de l'élimination de Marine Le Pen, ou au contraire, ne s'y attendaient-ils pas et craignent-ils un retour de bâton? Autre question importante, parce que dans le même esprit, mais c'est vrai que les gens sont un peu perdus, je croyais que les centristes aimaient que Marine Le Pen soit systématiquement au second tour. Quel intérêt pour elle de l'éliminer? Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de danger? Et pour le système, hein, pour la reproduction du système, vous avez compris. Et troisième question, du point de vue de la gauche cette fois, est-ce qu'il est audible à gauche aujourd'hui de dire ce que vous êtes en train de dire ce soir, à savoir que c'est une erreur d'éliminer Marine Le Pen judiciairement?
Alors là, c'est un autre double piège. C'est-à-dire que, évidemment, la martingale, quand tu es au pouvoir, même si tu es minoritaire, mais quand tu es au pouvoir, c'est d'avoir Marine Le Pen. Et l'ambition d'un homme politique aujourd'hui, c'est d'être premier ou deuxième dans un premier tour de présidentiel, parce qu'il sait que depuis Le Pen père qui est arrivé au deuxième tour, c'est l'assurance de gagner haut la main, même si. On va dire élection après élection, l'avance fond un peu comme neige au soleil, mais elle est quand même encore assez conséquente. Donc il y a ce premier truc. Mais pour penser ça, il faut être au pouvoir. Donc du point de vue des macronistes, il y a une contradiction stratégique. Oui, ils se réjouissent parce qu'ils ont une ligne en apparence très anti-Marine Le Pen, très anti-RN. Mais ils savent très bien qu'ils ont besoin du RN pour se maintenir et gagner une élection présidentielle. Et ça dépasse largement la France. C'est un problème, c'est une question européenne. Les États-Unis, c'est tout à fait autre chose, mais c'est une question européenne. C'est-à-dire que les populismes de gauche aussi, de gauche comme de droite, sont repoussés de plus en plus aux extrêmes. Avec le DSA, etc., pour finalement institutionnaliser un bloc central qui est sociodémocrate, pour le dire vite. Donc, voilà. Pour les autres, pour les socialistes, par exemple, pour la gauche, ils font, et même pour LFI, la gauche plus radicale, ils font un calcul qui est dicté par leur aversion quasi pavlovienne de tout ce qui peut ressembler à l'extrême droite, de près ou de loin. Donc, les fachos, le fascisme ne passera pas, nos poissons d'âne.
Tu parles de LFI, tu parles des électeurs de LFI,
Je
c'est ça?
parle des électeurs de LFI,
Parce que...
et je parle surtout d'abord des cadres et des élus de LFI.
Non, mais parce que, voilà, j'apporte ces éléments quand même qui sont importants. Du côté de LFI, quand même, hein, il y a un petit peu de recul par rapport à cette décision.
Alors, j'allais y venir, il y a un peu de recul.
Juste, puis je te laisse la parole. Et j'y reviendrai parce qu'il y a eu des choses plus développées encore que ça. Mais je cite juste le député Éric Coquerel, premier cercle Mélenchon, qui a réagi de la façon suivante, hein, beaucoup plus grinçante. Je ne suis pas d'accord pour que des choses qui devraient être décidées par les urnes le soient par les tribunaux. Cela ne fera que donner au Rassemblement national l'image d'une victime. Voilà.
Tout à fait. Mais là, c'est Mélenchon qui a donné le là, d'une certaine manière. Il a fait une déclaration tout de suite, de telle sorte que Coquerel, Bompard et la garde rapprochée sont allés tout de suite dans les médias pour dire on combat le Rassemblement national. C'était assez habile d'ailleurs. On veut bien continuer à les combattre, mais on les combattra dans les urnes, mais on n'est pas pour les éliminer de façon judiciaire comme ça, par ce qui pourrait ressembler à un coup de force judiciaire. Mais il y a cette culture politique, ça c'est Mélenchon, qui a quand même cette culture politique et qui, comme je le disais, se sait lui-même un peu sous les fourches caudines bientôt de ces décisions-là. Probablement, plausiblement, on n'est pas des oracles, on ne sait pas, mais c'est de l'ordre du plausible et du probable.
En tout cas, il redoute ça, ça c'est clair.
Il redoute ça. Après, tu as des gens qui jouent un drôle de jeu. Moi, ça m'a profondément choqué. Alors les écolos, mais les écolos, bon, c'est les écolos, hein, c'est toujours un peu spécial. Et les socialistes, ils ont la traîtrise comme ADN. Donc à un moment, ils sont pour ce qui est contre ce qui est pour. Ça dépend du vent. Fort, il sait pas où il habite, mais c'est pas que lui, ça a toujours été comme ça. Non, ce qui est beaucoup plus choquant, c'est Raquel Garrido et tous les gens qui ont franchi le Rubicon, qui sont là maximalistes en disant, en tapant sur Le Pen, regardez, c'est une honte. Il faut défendre les juges, mais c'est ridicule. Je veux dire, à un moment, ces gens-là sont dans leur petit agenda personnel. C'est extrêmement décevant aussi, hein, d'une certaine manière.
Dangereux et dangereux et
Et
dangereux.
dangereux, parce que quelque part, à vaincre son péril en triomphe sans gloire, non seulement ils ne vaincront pas, mais ils triompheront encore moins. Et ils vont être balayés par les vents de l'histoire. Quand on voit aujourd'hui que malheureusement, hélas, oui, les idées de gauche sont quand même très minoritaires, pour ne pas dire, j'allais dire infinitésimales aujourd'hui. Hein. Il faut quand même voir ça, parce que nous, on parle comme si le camp social républicain avait encore des chances de. Enfin, on est balayé, quoi. Hein. On est quantité epsilon, infinitésimale, quantité négligeable. Il faut quand même. Voir ça. Et donc,
Bah, on est balayé parce qu'il faut attaquer le réel, pas cultiver des fantasmes.
voilà.
Le problème, il est là, quoi. On a trop cultivé de fantasmes à gauche, donc forcément, on manque le réel, hein. Ça, c'est.
Alors, je vais te laisser la parole, Harold. Justement, pour rester, puisqu'on est sur LFI et les réactions des têtes pensantes de LFI, hein, de ceux qui, au sein de LFI, réfléchissent vraiment. Moi, j'ai été frappée aussi, hein, par la réaction de Stathis Kouvelakis, qui n'est pas un élu, mais qui est un des cerveaux de l'Institut Laboétie, hein, qui est l'endroit où ça pense dans la Mélenchonie, qui est un ancien membre du comité central de Syriza en Grèce, un ancien professeur de philo au King's College, et qui influence beaucoup le premier cercle mélenchoniste. Et sa réaction, elle est encore plus virulente que celle de Coquerel, puisqu'il a dit, j'ai noté, je cite, à tous les parangons de vertu de la gauche qui s'agenouillent devant les juges de la République et fustigent les réserves de LFI, souvenez-vous de l'opération Manipulite en Italie dans les années 90 et de l'opération Lava Jato au Brésil, le résultat a été Berlusconi et Bolsonaro. C'est la mobilisation populaire, je cite toujours, dans la rue, le tissu social et les urnes qui peut vaincre l'extrême droite, pas une décision de justice qui peut au contraire la conforter dans son rôle de force soi-disant anti-système.
Tellement
Ouais.
l'évident.
Ouais, je
Non
pense que
mais.
les pathologies de la liberté sont corrigées par la liberté et les pathologies de la démocratie sont corrigées par la démocratie. C'est ça le problème. Et je pense que quand on réfléchit, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de cette question du Rassemblement national, mais quand même, qui est au pouvoir? Qui restreint nos libertés publiques? Quand même, qui va voter, enfin voter, à affirmer en fait des prélèvements sur les fonds publics pour faire la guerre? Hein, hors de tout, de toute consultation populaire. Qui fait ça en fait? Enfin, il faut quand même savoir que le Rassemblement national, c'est pour ça que je maintiens quand même cette position un peu de gidouille. On parle beaucoup du Rassemblement national, mais, et donc ce qui fait qu'on parle moins d'autres choses. Pour Macron, c'est formidable. Il a fait une dissolution, il a imposé ses volontés. On a aujourd'hui Bayrou qui est à 15%, je crois, d'avis favorable. Enfin, c'est un effondrement absolu. Et là, on va être encore dans cet agenda Rassemblement national. Le problème, il est là. Et c'est pour ça que j'ai commencé avec cette idée de la motivation du juge, de se dire on ne peut pas attaquer les institutions européennes. Moi, j'ai très peur qu'à terme, le droit se substitue au réel. J'ai très peur à terme que, tout simplement, une critique de l'intérieur du réacteur, en quelque sorte, ordo-libéral qu'on est en train de construire en Europe, ne soit plus critiquable, ne soit plus discutable, soit même pénalisé et criminalisé. Il faut quand même voir un peu plus loin, et je pense que Kouvelakis, il a cette lecture-là aussi quand même. Il a une lecture qui est une vraie
International.
lecture. Voilà, une lecture globale. Et il fait pas de la, évidemment, du petit positionnement politique de satisfaction nationale sur ce point-là. Donc,
Il y a une chose qu'a compris la Macronie et globalement tout le camp sociodémocrate au sein de l'Union européenne. Et c'est pour ça que la digitalisation est un outil formidable parce que ça empêche de réfléchir et ça met une norme. La norme, c'est pour empêcher les gens de réfléchir. Au-delà de la norme, t'es con, en deçà de la norme, t'es con. Et donc, c'est un tunnel qu'on te met, on t'écrète et aussi par le bas. Et donc, t'es dans ce tunnel et puis t'avances. La question de la démocratie directe, la question des luttes sociales, des manifs, d'une certaine révolte un peu musclée, elle est centrale. Parce que dès lors qu'on bascule dans le champ dit représentatif par des conclaves, des conciliabules, etc., ça ne peut aboutir, in fine, qu'à l'élection d'un Berlusconi, qui a les médias, qui a les relais, etc., etc. Donc si nous, si le camp social déserte une action radicale, violente, populaire, c'est pour ça que je dis, moi, la solution ne viendra plus des urnes, il y a un moment maintenant qu'on le sait. À force de se policer, de plus manifester, de plus gueuler dans la rue, de plus faire de grève, de plus être un peu violent dans les manifs, parce que maintenant il faut être violent, finalement, quand tu es dans un conclave, quand tu fais ton chemin de Damas, tu disparais. Et c'est ce qui est arrivé au Rassemblement national. D'une manière plus symbolique, il est rentré dans le rang, il a voulu. Il a montré patte blanche. Oh, mais ils sont. Moi, j'étais stupéfait de voir le Rassemblement national soutenir Zelensky, par exemple. Quand on connaît l'histoire du Rassemblement national, soudainement, ils sont devenus ukrainiens. Zelensky qui représente en fait tout ce qu'ils détestent. L'Ukraine, d'un point de vue du pays déjà, de la corruption, etc., du point de vue des idées, Zelensky, de son passé, de son présent, du rapport aux grands frères russes, c'est tout ce qui haïsse le Rassemblement national. Ils sont devenus soudainement, mais d'une certaine manière, LFI aussi a fait ça, hein, avec la guerre, avec l'Ukraine, avec l'Union européenne. Bon, bah, finalement, ils veulent aussi la réforme de l'intérieur. On est loin de la campagne de 2017. Donc, tous ces gens-là, en fait, se sont mis dans la peau de Malkovich, d'une certaine manière. Ils sont dans le système en disant on va le réformer de l'intérieur avec Mélenchon en gueulant un peu plus fort, et avec Marine Le Pen en prenant le relais un peu des prolétaires. Mais ça ne marche pas. Ça marche dans les enquêtes d'opinion, ça fait des groupes à l'Assemblée nationale, mais est-ce que c'est de nature à changer la société? Non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas majoritaire, comme tu le disais, Harold. Pour passer le cap dans le cadre de la Ve République avec un scrutin majoritaire à deux tours, il faut faire 50% plus une voix. Et on en est quand même aujourd'hui très loin, moins loin pour le Rassemblement national, puisque situé dans un étiage à 37%, c'est la première fois, mais ça semble vraiment beaucoup, mais il y a quand même plus sens en cas d'opinion. Il faut voir que LFI aujourd'hui est à sans doute, quand on regarde le cluster 17 et compagnie, un peu tous les sondages d'opinion, l'IFOP, Ipsos Co, on n'est même pas à la moitié, hein. Même pas la moitié, c'est-à-dire on est dans un étiage autour de 15-16%, quoi. C'est pas avec ça que tu vas renverser la table, surtout dans le cadre d'une union qui est mort-née. Je veux dire, le nouveau Front populaire, il n'existe plus. Les écologistes, bon, ça a toujours été une bizarrerie. Les socialistes, ben, ils sont rentrés au bercail, mais comme Macron a sifflé la fin de la récré sur la retraite, l'âne de Bétarame, il a été obligé de dire qu'il n'y aurait pas de remise en cause de l'âge de départ à la retraite. Et donc les socialistes se sont trouvés trahis par leur propre traîtrise et de ne plus pouvoir habiller leur traîtrise. Mais en fait, le NFP est fini. Donc on est dans un monde politique complètement atomisé, morcelé, parcellaire. Il n'y a pas de force capable de se réunir, ni dans la rue, ni de peser sur les institutions en faisant des grèves, etc. Il n'y a même pas de référendum. Donc, dans une démocratie dite représentative, quand on n'a pas le pouvoir, on s'écrase et on disparaît, quoi. C'est ce qui est en train d'arriver. Ça ne fait pas de belles perspectives, hein, ce que je dis là, mais.
Effectivement, c'est important de le dire à ceux qui nous écoutent, qui peuvent être déconcertés hein, par notre discours. Hein, voilà, notamment certaines personnes de gauche qui se sont de bon cœur réjouies de cette décision judiciaire. Mais c'est vrai que du côté des grandes figures de la gauche radicale à l'international, je pense à des Yanis Varoufakis, ancien ministre des Finances grec, je pense à Glenn Greenwald aux États-Unis. Beaucoup voient dans cette décision quelque chose de dangereux pour l'avenir de la France. Beaucoup y voient un coup d'État judiciaire et surtout le dernier épisode en date d'une longue série de forfaitures qui a commencé bien sûr avec le référendum de 2005. On peut peut-être inclure d'ailleurs dans cette séquence ce qui s'est passé, le coup contre Fillon en 2017, hein, qui est quand même pas complètement élucidé. Et puis, bien sûr, les événements de juillet 2024 en France, hein, puisque même si tout le monde s'est assis sur ça, mais c'est tout de même extravagant ce qui s'est passé. Hein, on est un petit peu passé dans la quatrième dimension depuis, en réalité, politiquement en France. Et pour resituer ça à une échelle européenne, bien sûr, on n'en a pas encore parlé ce soir, mais c'est capital. Il y a aussi, bien sûr, l'éviction d'un candidat à la présidentielle en Roumanie pour soi-disant ingérence russe, etc. Alors qu'en réalité, bon, tout le monde sait que, pour le coup, lui, contrairement à Marine Le Pen, ne s'était rendu coupable de rien. Est-ce que vous pensez, comme toute une certaine gauche européenne et mondiale, que la technocratie européenne est en train de se radicaliser, autant sur ce terrain-là que sur le terrain belliciste, hein, d'ailleurs, puisqu'elle essaie de survivre au retrait des États-Unis par la pulsion guerrière? Et est-ce qu'on est en train, littéralement, de basculer dans un système qui souhaite se passer de la validation électorale?
Alors, c'est l'enjeu. En fait, derrière tout ça, c'est peut-être moins Marine Le Pen, on en a suffisamment dit, que la question politique. En fait, ce n'est pas l'éviction d'une politique, c'est l'éviction du politique. C'est ça qui est fondamental. C'est pour ça que j'insistais, en fait, sur le trouble à l'ordre public, la dissuasion, sécurité collective, l'ordre républicain. Alors évidemment, on peut dire, on ne peut pas défendre comment dire, la petite entreprise de détournement de fonds Marine Le Pen, mais on ne peut pas non plus, ce que font certains à gauche, dissocier ça, ce que tu viens de dire et de rappeler, de toute la trajectoire depuis 20 ans. On ne peut pas dissocier le vocabulaire utilisé par le juge pour motiver sa décision du vocabulaire de l'Union européenne, des bonnes pratiques, de troubles à l'ordre public. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas. Alors, on ne peut pas non plus, et c'est pour ça que c'est compliqué, on ne peut pas non plus faire des liens complètement délirants en disant il y a une espèce de grand complot, machin, etc. C'est pas ça. Moi, j'ai jamais raisonné en termes de complot. Je pense qu'il faut raisonner de façon dialectique en termes de sens de l'histoire, en termes de conspiration, c'est-à-dire ça va dans un certain sens. Voilà, ça va dans un certain sens et le sens n'est pas bon. Quand le citoyen français doit être sommé de faire du droit, c'est-à-dire de comprendre la logique cachée de décisions subtiles, il y a quand même 150 pages de rendu. C'est pas ça un citoyen. Un citoyen, il exerce sa souveraineté avec le vote. On ne peut pas demander aux gens de se plonger dans du droit. On ne peut pas leur demander et les culpabiliser. Oui, mais c'est motivé, c'est-à-dire que ce que tu disais au début, hein, l'exécution provisoire immédiate, voilà, alors, tous les Français doivent comprendre ce que ça veut dire. Non, les Français, ils ont à défendre par leur vote l'intérêt général, leur travail, leur vie, leurs parents, hein, qui sont dans des EHPAD, qui sont dans des situations de précarité, leurs enfants, hein, qui bientôt n'auront plus les APL pour pouvoir payer les appartements, etc. C'est ça la vie des Français. La vie des Français, elle est là. Elle n'est pas de se spécialiser dans le droit. Ce que tous ces gens font avec une morgue absolument prétentieuse, on l'a vu avec Blanquer. Blanquer qui nous faisait du droit alors qu'ils sont en train de bousiller l'éducation nationale. On parle du Rassemblement national. Est-ce qu'on sait aujourd'hui que là, dans les universités françaises, on a passé le CAPES à 3 ans? Bac plus 3, on va envoyer des professeurs à bac plus 3 en les payant, certes. Alors voilà, c'est un peu démagogique, ça peut aider des étudiants en difficulté, c'est vrai. On est en train de détruire l'État de l'intérieur
Voilà, alors.
et on nous fait des procès à gauche parce qu'on émet des doutes, parce qu'on n'ouvre pas la bouteille de Prosecco. Mais ils sont malades, en fait. Ces gens ont perdu complètement le sens des institutions publiques. J'accuse la gauche, en fait. J'accuse cette gauche moraline. Je ne parle même pas de Tondelier, parce que là, c'est tellement misérable et nul politiquement, ça ne devrait même pas exister dans la scène politique et dans un État démocratique sain. Déjà, des gens comme ça ne devrait pas exister. Mais on est en train de détruire l'État de l'intérieur et on nous bourre le mou avec du droit, avec des finesses et des articles de droit. Mais on est où là? Et en fait, les Français, eux, ils voient ça avec un certain recul, voilà, une certaine distance, et ils se disent, ben, une nouvelle fois, on se fait, excusez-moi, je vais être un peu vulgaire, on se fait entuber. Voilà, on se fait entuber. Et la gauche qui ne comprend pas ça, c'est la gauche de la loose. C'est la gauche qui perd, parce que socialement, elle perd, parce qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas les logiques profondes de plébiscite populaire aujourd'hui. Et je suis d'accord avec Varoufakis, je suis d'accord avec Kouvelakis, ils ont raison, le retour de bâton va être terrible et il va être toujours dans le mauvais sens, évidemment, parce que le social et l'institution ne sont pas pensés de façon cohérente et sérieuse.
Oui, mais c'est ce que tu dis là, en fait, c'est la question fondamentale du relatif et de l'absolu. C'est-à-dire, quand le droit divorce de la justice, ça donne ça. Quand on est des gouvernements d'experts, on voit sans arrêt des experts sur les plateaux de télé, etc. C'est-à-dire, c'est la définition par excellence. De la ploutocratie, de l'oligarchie, c'est-à-dire un petit nombre de personnes. C'est la dichotomie que fait Todd d'ailleurs entre les oligarchies libérales et les démocraties autoritaires qui reposent sur un socle beaucoup plus large, avec des excès. On ne peut pas dire que la Russie, ce soit une démocratie exemplaire, mais il y a 2/3, voire 3/4 des gens qui soutiennent Poutine, surtout quand il y a des questions patriotiques qui viennent sur le devant de la scène. Et donc, quand on évacue finalement. Les questions philosophiques, les questions d'essence, pour être dans le ici et maintenant avec un horizon très court, c'est-à-dire l'ici et maintenant qui commence le lundi matin à 8 h sur France Info, qui se poursuit avec les informés de M. Delis, celui qui pensait que les gilets jaunes étaient de la vermine, et qui se finit avec quelle époque, le samedi soir avec Madame Salamé, quoi. C'est ça leur horizon. Et quand on fait des petits bouts comme ça d'experts, on ajoute un bout de juridisme et on dit Ah, mais c'est l'article machin, et Marine Le Pen, elle a bien fait, ils ont bien fait, etc. On ne fait plus de politique, on ne réfléchit plus. Si on fait du juridisme, on ne fait plus de, on ne fait plus, on ne rend plus hommage à la justice, et quand on fait donner les experts, on fait sonner les experts comme ça, on ne rend plus hommage à la politique. Qu'est-ce que c'est la politique? La faculté de vivre ensemble, de vivre en société. C'est les gens, effectivement, de nos parents qui seront dans les EHPAD. C'est trouver une crèche pour nos enfants. C'est vivre décemment du fruit de notre travail, etc., etc. C'est avoir des hôpitaux qui fonctionnent, ne pas avoir de ZFE. Aujourd'hui, on est. Quand on regarde, et ça, la numérisation, elle est là pour ça. C'est pas la numérisation dans l'absolu. C'est juste d'avoir en face de toi des machines. C'est-à-dire, tu peux plus circuler parce que tu pollues. Tu peux plus, demain, tu pourras encore moins circuler, etc., etc. Donc, ce gouvernement, ce n'est pas un gouvernement des juges, c'est un gouvernement des technocrates, c'est un gouvernement faussement technique en plus, mais contre lequel tu ne peux rien, gouvernement au sens de gouvernance plus large, quoi, contre lequel tu ne peux rien. Et donc, si se réjouir, comme Marine Tondelier, du sort réservé à Marine Le Pen, oui, très bien. Si je ne dis pas de dire Marine Le Pen, elle est innocente,
Non, mais on
mais
peut penser dans le
sans,
complexe, voilà.
voilà, mais sans resituer ça dans quelque chose de plus large, qui pourrait toucher évidemment tous les gens sincères qui voudraient s'élever contre la doxa européenne, eh bien, c'est se condamner soi-même à n'être plus que une voiture noire dans le trafic, pour reprendre Cabrel, quoi. Et donc, prendre sa place dans le trafic, ce sont des gens qui prennent leur place dans le trafic, mais qui ne cherchent plus à comprendre ce qu'est le fait de se déplacer. Il faut prendre sa place dans le trafic. Et donc, le problème de la politique aujourd'hui, et c'est pour ça que Serre parlait de la troisième révolution anthropologique, je suis tout à fait d'accord avec l'Internet, le 2.0, etc., le métavers, c'est qu'on est passé dans quelque chose de complètement différent, qui a fondamentalement changé les rapports humains et sociaux dans la France, dans les sociétés occidentales en général. On ne fait plus de politique, on fait de la technique. Et quand moi je vis à la campagne, j'ai plus personne à qui parler. J'ai un bureau qui est ouvert 2 demi-journées par semaine, et bientôt je vais aller acheter mon pain dans ce bureau-là, les maisons, je sais plus comment ça s'appelle, les maisons France, là. Tout est comme ça. Et donc c'est ça, fondamentalement, qui va nous tuer. C'est-à-dire qu'à un moment, on va nous sortir un Attal numérique ou un Bardella, parce que le système aura décidé que. Et le DSA, c'est exactement ça.
Alors, j'aimerais quand même qu'on revienne un petit peu à la question de la corruption, parce que la perversité de cette affaire, c'est que ça revient là à rejeter sur le Rassemblement national, parti déjà diabolisé par le système, les affaires de corruption. J'aimerais quand même qu'on resitue ça, nous, dans un panorama global pour le moins inquiétant. On recevait récemment sur QG, c'était Haussmann qui l'a reçu pour nous. Philippe Pascaud, qui est un ancien élu de l'Essonne, auteur de Pilleurs d'État chez Max Milo et grand spécialiste de la corruption, et il nous disait des choses absolument saisissantes, notamment cette citation que j'ai notée: la corruption n'est pas un parti, c'est le système. En France, la corruption est la règle. Plus vous êtes corrompu, plus vous avez de chances d'être élu. Je renvoie à l'entretien qui est disponible sur notre site. J'aimerais quand même qu'on rappelle aussi aux gens qui nous écoutent ce soir que les macronistes là, qui sont en train de s'amuser comme des chats avec les souris du RN, ont des affaires de financement de partis extrêmement graves qui ne sont pas encore jugées. L'affaire McKinsey, en réalité, est une affaire de financement occulte de la campagne de Macron en 2017. Elle dort encore dans des cartons au parquet, on n'en entend pas parler. Il y a aussi toutes les histoires d'utilisation des moyens de Bercy quand Macron était ministre de l'économie pour financer sa campagne. Enfin, Des choses, pour ne citer, là je ne cite que l'écume, on pourrait voilà, dérouler
Non, c'est fou.
comme tu
Non,
faisais
mais
tout à l'heure,
une
Didier.
chose plus récente que l'Union européenne de 2000, de
Voilà,
2014, etc., ou 2011, hein, des choses.
et qui concerne le sommet de l'État. Et là, alors là, bizarrement, la justice patine, rien ne se passe et on n'en entend absolument plus parler.
Harold, parce que j'ai beaucoup parlé.
Ouais, non, juste un point, enfin deux choses. J'ai cherché tout à l'heure le texte, je ne l'ai pas retrouvé. Bon, c'est pas grave. Un texte de Jean Baudrillard, justement, où il parle de ça. Et il dit, l'astuce, en fait, bon, c'est une astuce qui est assez éventée, c'est de temps en temps, on remet un peu au bassinet, c'est-à-dire qu'on va punir, voilà, on va montrer au fond qu'on lutte contre la corruption, regardez, on est ferme, on est intransigeant, on est très dur, etc., pour cacher, en fait, tout ce qui n'est pas jugé. Hein, c'est des stratégies, en fait, c'est là un peu la stratégie du bouc émissaire. On en prend un, on tape dessus. Bon, ça ne veut pas dire, hein, je répète, il faut faire beaucoup de didactique avec une certaine partie de la gauche. Hein, ça ne veut pas dire que je justifie, hein, que je ne justifie pas la mesure qui est prise contre Marine Le Pen. Ça n'a rien à voir. Hein, je réfléchis aux dynamiques, en fait, de dissimulation de la corruption. Ça, c'est la première chose.
C'est
Après, la
très
corruption.
important pardon, juste une toute petite parenthèse, c'est très important effectivement de le rappeler. Et d'ailleurs, chaque fois que des Varoufakis s'expriment, ils disent soit la loi s'applique pour tous, soit elle ne s'applique pour personne.
Bien
Et là,
sûr.
étrangement, elle ne s'applique pas du tout pour les macronistes.
Et il faut être de mauvaise foi, de très mauvaise foi, pour ne pas le reconnaître. C'est pas possible, en fait. Donc, il faut tenir vraiment les deux bouts. Mais c'est intéressant parce que, justement, Baudrillard, il parle, c'est marrant, il prend l'image de l'anneau de Möbius. Vous voyez, l'anneau de Möbius, c'est un espèce de tore renversé qui fait qu'en fait, il n'y a pas d'extériorité, il n'y a pas d'intériorité. Ce qui est très intéressant, c'est que tous les problèmes aujourd'hui, on peut presque les prendre tous, sont tous des anneaux de Möbius. C'est-à-dire que, en fait, ce sont des tores à front renversé et il n'y a pas de position simple. En fait, nous sommes dans des positions qui sont toujours perverses et toujours vrillées parce que le système est vrillé. Si on parle, par exemple, de la corruption, pour moi, et je vais le dire très simplement, la corruption, qu'est-ce que c'est? La corruption d'un matériau, c'est la destruction et le détournement, en fait, de l'origine. Il y a donc une transformation de fonction, en fait, finalement. C'est ça, la corruption. Si on prend un député européen qui est grassement payé, rubis sur l'ongle, et qui passe tous les jours à la télé ou à la radio, je parle, je pense à Gluglu, moi j'aimerais savoir quel est le travail de Gluglu, qu'est-ce qu'il fait, est-ce que c'est un lobbyiste et de quoi, c'est quoi son travail? Il est élu au député européen et on le voit tous les jours dans les médias. Pour moi, Gluglu, c'est un homme de médias. À partir de là, c'est pas illégal, mais il y a corruption, c'est-à-dire qu'il y a détournement en fait de l'argent. Moi, je suis désolé, je suis fonctionnaire de l'État. Quand je suis au travail, eh bien, je suis au travail, je ne suis pas à la télévision et je ne peux pas aller à la télévision quand je travaille. Ces gens, ils travaillent, ils font en même temps la promotion d'eux-mêmes. Ils passent 90% du temps à faire leur propre promotion. Glu-Glu est déjà en campagne présidentielle, il ne faut quand même pas l'oublier. Et de l'autre côté, les 10%, ils font, et en plus, ils sont payés, hein. Ils sont payés en plus de ça pour aller au Parlement européen. Tout ça, c'est une honte. La corruption, en fait, elle est très simple. Il y a trop de fric en politique. C'est une gagebie absolue, en fait. C'est absolument une gagebie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils s'entretuent pour avoir les postes. C'est trop bon, en fait. Vous imaginez? C'est trop bon. Quand je parle de l'Eurodreams de Le Pen, mais c'est génial, en fait. C'est génial. Elle n'a rien à faire, rien à produire. Et ça tombe, en fait. Le fric tombe. Et je pense que dans sa tête, d'ailleurs, elle se dit, mais ouais, c'est normal. C'est normal pour elle, en fait, de payer un majordome 10 000, 10 000, 10 000 euros par mois, mais on marche sur la tête. Mais parce qu'ils fonctionnent tous comme ça.
Alors, ça, c'est vraiment important. Parce que souvent, on a entendu, quand M. Macron a été élu, les gens ont dit la corruption, etc. Et avec McKinsey, le recours au cabinet de conseil, ils ont un peu infiltré l'État. Non, mais ce n'est pas du tout ça. C'est beaucoup plus vaste. C'est-à-dire que l'État français, c'est McKinsey. Il faut bien comprendre ça, et d'autres cabinets d'ailleurs. C'est-à-dire que quand M. Macron faisait campagne dans ses locaux, écoutez bien ce que je vais dire, 100% du personnel politique En Marche, qui a été créé sur un coin de table et logé chez l'ancien patron d'AXA, 100%, c'était des gens de McKinsey. De telle sorte que les gens de McKinsey sont devenus conseillers ministériels, etc. En fait, c'est comme le spoil system américain. au lieu d'avoir sa propre administration, M. Macron a fait un transfert du privé, et c'est même pas le privé, c'est-à-dire ce sont des gens qui n'ont pas de métier absolument vraiment connu, pas de fonction parfaitement identifiée, c'est-à-dire quand tu fais un rapport de 150 pages, eux, en format vertical et de droite à gauche, comme les gens le font normalement, eux, ils te prennent la page, ils te la mettent dans ce sens, alors à l'italienne, et puis ils écrivent encore 36, et ils te disent que c'est génial. Et ils te font une belle couverture bleue cartonnée, je sais, puisque un jour, moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, quand j'étais dans le privé. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que M. Macron, qui était, on ne sait pas comment, promu très vite dans une banque d'affaires, alors qu'il était assez passable, assez médiocre hein, comme banquier d'affaires. Ça, ce sera un mystère à percer. Bah, s'est retrouvé finalement avec des millions d'euros, notamment parce que en fait, tous ces trucs-là, c'est du trafic d'influence. Hein, c'est rien d'autre hein, donc dans le deal Nestlé. Et puis, quand il a fait sa déclaration à la haute autorité pour la transparence de la vie publique, bah, tout avait disparu. Il s'est retrouvé avec, je ne sais plus, rien du tout. Il a un patrimoine qui est 20 fois plus faible que celui de Mélenchon. Enfin,
Le patrimoine d'une retraitée du 20e arrondissement de
tout va bien, tout va bien, on est bien.
Alors, il se trouve, je vais essayer d'être rapide, que je
là
connais
là,
bien
c'est drôle tout ça.
ce sujet-là, c'est-à-dire que dans les gens très très riches, et là aussi, il y a beaucoup de gens à gauche qui se font avoir, ils disent, oh là là, il faut taxer les riches, ils ne sont pas assez taxés les milliards, mais les gens ne connaissent pas ça. C'est-à-dire, les vrais riches, ils ont pas, ils sont pas dans des paradis fiscaux en Belgique, aux Pays-Bas, ils y sont, mais ça c'est la piétaille, c'est les petits os à ronger qu'on donne à la cour des miracles. Ils sont ailleurs, dans des fiducies avec des prête-noms, un notaire, un lawyer, ce qu'on veut, dans les îles anglo-normandes ou au Liechtenstein. Bon, le Liechtenstein, ça va un peu moins bien parce que ils ont été un peu atteints, un peu comme Monaco. Ça devient compliqué aujourd'hui parce qu'ils sont. Bon, bref, je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais les îles anglo-normandes, c'est là qu'est l'argent. Dernier élément, quand M. Macron a fait ses deals, on a retrouvé dans les donations de sa campagne, tous les avocats, on appelle ça les lawyers, hein, ils ont eu, je ne sais plus combien, 500 millions d'euros de commissions. De commissions. De commissions. Et c'est-à-dire que les gens, après, ils ont été, en tant que personne physique, on les a retrouvés avec un plafond de, je ne sais plus combien, 3 750 euros par personne, donateur pour la campagne de M. Macron. Et il y avait l'histoire de France Trésor au milieu avec l'ancienne nana de Danone qui était ministre du Travail, là. Bon, tout ça n'a rien donné, n'a strictement rien donné. Nous sommes là au cœur du cœur sanctuaire, dans le tabernacle de la corruption active et passive. Et moi qui ai fait un peu de politique et qui étais à l'Assemblée nationale pendant quelques années et aussi dans les permanences, j'ai vu comment ça marchait. C'est pour ça que je pense que si on ne réforme pas le fonctionnement de la classe politique, ça ne marchera pas. C'est pourquoi, depuis toujours, je défends des députés, si on reste dans ce système-là, on est député à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire ils sont une part de souveraineté nationale, ils n'ont pas à faire du terrain, un député. Il n'a pas à être dans sa circonscription. Il a à donner un peu de son temps, si dans la vie civile, il est professeur, médecin, chirurgien, ou avocat, quand un texte arrive et qu'il doit le porter, le défendre sur la bioéthique ou sur son domaine d'activité. 90%, 95% du temps passé par un député en circonscription ou à l'Assemblée nationale est du temps inutile pour faire du théâtre. Les questions d'actualité, ça ne sert à rien. Le travail en commission, ça ne sert à rien. Parce que de toute façon, un député ne sert à rien. Puisque c'est l'exécutif qui commande et qui a les lois, elles portent le nom des ministres dans un système législatif et parlementaire. Il y a quand même un petit problème. La loi Sapin, la loi machin, ils ne sont pas là pour faire la loi. C'est les députés et les sénateurs qui font la loi. Donc il y a ce problème-là. Et donc, les députés et les sénateurs ne devraient pas être payés, juste défrayés, donner un peu de leur temps, comme le font des millions de gens en France qui, en ayant un travail, vont le samedi aider à l'opéra, aider pour un club de foot ou de rugby le dimanche, lavent les maillots, font de la musique, sont dans des associations et passent le balai. Tout le monde fait ça dans sa vie, ou aide dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Tout le monde fait ça. Pourquoi les politiques ne le font pas? Parce que, comme le dit Harold, il y a bon banania, c'est un bon système, c'est le système des colons. Allez, on engrange, et puis les gens vont dans les champs de coton travailler, les pauvres gens, les pauvres cons qui travaillent, et qu'on va taxer avec les aides-feux. C'est
C'est aussi
ça. Quand tu es élu parlementaire aujourd'hui, t'engranges
pour
les.
cette raison, Didier, que nous sommes dans une situation politique totalement bloquée depuis l'été dernier. Parce que je le répète, on l'a déjà dit ici, mais si tous les députés avaient démissionné et
C'est
avaient
fini.
refusé le coup de force de l'Élysée,
C'est
c'était terminé.
fini. Mais
C'était
voilà,
terminé.
tu es trop bonne. C'est trop
C'était
bon.
game over. Voilà. Et ils ne l'ont pas fait. Voilà, ils ne l'ont pas fait comme on sait. On va
En
terminer.
plus, ils mentent. En plus, ils mentent parce que quand ils nous disent qu'ils gagnent 5 200 euros, etc., j'en fais la démonstration un jour. D'abord, ils gagnent beaucoup plus que ça. Il y a l'enveloppe des assistants parlementaires. Ils sont assez malins pour embaucher des proches. Voilà. Et ensuite, il y a l'enveloppe pour les frais, même s'il faut plus les justifier qu'à mon époque, c'est de l'argent défiscalisé, plus les prêts à taux zéro, etc., plus les taxis, plus les avions. Etc. Donc c'est un train de vie, globalement, de entre 15 000 euros pour les députés de base, 20 000 pour les plus indélicats, et un député, le calcul a été fait par des gens sérieux, c'est 1 million d'euros par an et par député. C'est dans le budget, hein. De toute façon, avec tous les frais, les assistants, un député coûte, je ne dis pas qu'il gagne 1 million d'euros, hein, par an, il coûte à la collectivité, et un sénateur pareil, 1 million d'euros par an et par personne. Il y a 389 députés, sénateurs, 577 députés, il y a même des députés de l'étranger, ce qui ne correspond strictement à rien. Voilà. Et il y a même un conseil économique et social et environnemental. Qui la troisième chambre asynchrone qui fait des rapports que personne ne lit, qui sont très bien écrits d'ailleurs, hein, mais qui servent à rien. Donc voilà. Et il y a des milliers d'organismes en France, ça coûte un demi-milliard par an. La République est généreuse, donc voilà aussi où va l'argent. Et c'est pour ça que le système ne peut pas se réformer parce que les gens ne vont pas se faire harakiri. Quand tu n'as pas de métier, que tu as toujours fait de la politique et que d'un coup tu gagnes 200 000 euros par an, bah tu démissionnes pas.
Merci à tous les deux pour cette discussion sur ces événements tout de même brûlants. Je rappelle bien sûr à tous ceux qui nous écoutent que Quartier Populaire fêtera bientôt ses 1 an. Hein, ce sera, si je ne dis pas de bêtises, en mai prochain. Voilà, effectivement, comme tu le rappelais, Harold, en introduction, on n'avait pas vu venir la dissolution. Hein, on était vraiment dans une morne plaine. Et on avait décidé de lancer cette plateforme pour recréer de la force collective transpartisane avec un discours parfois qui déplaît hein, dans nos camps de rattachement ou pas. Voilà. Peut-être un mot pour conclure tous les deux, et puis on va se quitter et se retrouver très bientôt dans 15 jours.
Alors, je vais commencer, puis je te laisse terminer, Didier. Pourquoi finalement je ne me réjouis pas de tout ça? Parce que j'y vois, c'est peut-être mon pessimisme méthodologique, j'y vois une amélioration du système. Fillon, Sarkozy, Le Pen, pour moi, c'est un petit peu les vieilles barbouzeries. C'est le vieux système. Le vieux système où on va payer comme ça, à droite, à gauche. Le nouveau système est un système où la corruption et le système en lui-même, les institutions, se confondent en fait. Et je suis d'accord avec Didier. McKinsey, c'est l'événement massif, normatif. C'est ça qu'on devrait attaquer dans la nouvelle gouvernance, entre guillemets, Macron. Et ça, c'est pas 4,5 millions d'euros. C'est des milliards d'euros, en fait. Des milliards d'euros et des dizaines de milliards d'euros. Il faut comprendre les sommes. Et je suis désolé, mais il y a dans le bon, la brute et le truand. À un moment donné, il y a le sergent là, nordiste qui dit mais il faut faire sauter le pont, etc. C'est une chure de mouche sur les cartes de l'état-major. Pour moi, le RN, c'est aujourd'hui une chure de mouche sur les cartes de l'état-major. On est en train d'affronter un bétonnage intérieur en fait de ce système. Alors évidemment qu'il y ait une bourgeoisie statophile qui vit de ça, qui en tire des bénéfices, des politiques qui aussi en tirent des bénéfices. Évidemment, ces gens ne vont pas se remettre en question. C'est aux gens, en fait, de faire l'effort supplémentaire, le sursaut de compréhension supplémentaire pour ne pas tomber dans les FA, Antifa, etc., tous ces trucs-là, et pour penser exactement ce qu'on est en train de devenir pour nos vies et surtout pour celles de nos enfants.
Merci à tous les deux. Merci Didier et Harold. On se retrouve dans 15 jours, très exactement, jeudi prochain.
Merci.
Voilà, je ne sais pas si nous aurons un invité. Nous allons y réfléchir.
Ça va tellement vite.
C'est absolument, il se passe chaque jour quelque chose. Je vous souhaite à tous une bonne fin de soirée et je vous rappelle que QG est un média indépendant, ce qui nous permet de tenir un tout autre discours que sur les médias que Didier vient d'évoquer. Semaine après semaine, je vous invite à faire le geste essentiel qui est l'abonnement payant pour nous soutenir. Et à nous découvrir, bien sûr, à découvrir tous nos contenus, nos textes aussi, hein, celui d'Harold qu'on a publié ce matin, un grand et beau texte philosophique sur Pier Paolo Pasolini. Merci à tous et bonne nuit.
Merci Aude, merci Didier. Bonsoir à toutes et à tous.
Salut à tous.